Instant Campus, aujourd'hui, on s'intéresse au mardi de l'égalité, cycle de conférences à Rennes 2. La semaine dernière, la conférence portait sur les conditions d'études des filles en école d'ingénieurs, les violences sexistes et sexuelles subies, ce sur quoi Colline Briquet s'est penchée dans son mémoire, mémoire qu'elle a réalisé dans le cadre de la formation numérique en continu, études sur le genre que propose l'Université Rennes 2 et l'UBO. On a pu en apprendre plus sur ce diplôme interuniversitaire avec Fanny Bunion, responsable pédagogique de la formation. L'objectif de la formation, ce serait que des personnes puissent s'approprier des concepts, des méthodes pour réfléchir aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est comme ça que vous définiriez un peu le but de la formation ?
Oui, c'est ça, acquérir des outils, des connaissances, des compétences pour pouvoir agir en faveur de l'égalité.
Oui, voilà, c'est donc l'objectif a priori à sa visée théorique, mais du coup pratique, puisque derrière, forcément, à partir de la réflexion et de la connaissance sur ces questions qui sont complexes, en plus aujourd'hui, on a les moyens d'agir et d'essayer de changer la donne à travers des activités professionnelles, mais pas que d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'inscrivaient aussi pour enrichir leurs pratiques militantes.
Absolument, oui, on est à l'interface entre des formes d'engagement professionnel, personnel, associatif, militant. On a des profils extrêmement larges, en termes même générationnels. Hein, cette année, donc on est à la 6e promotion, nos stagiaires ont entre 26 et 57 ans. On a des gens qui viennent du milieu associatif, des enseignants, des travailleurs sociaux, des médecins, des gens qui travaillent dans des ONG. Donc c'est vraiment un profil extrêmement varié. Des connaissances théoriques qu'on leur propose, mais aussi une dimension réflexive autour de leur propre pratique, avec un mémoire à réaliser, un mémoire d'études, mais sur un sujet qui est directement lié à chaque stagiaire, donc à son activité, son milieu, sa pratique, pour justement que la formation puisse lui permettre de mettre en action, de mettre en place, en quelque sorte, des dispositifs dont il aura ou elle aura acquis des connaissances théoriques au cours de la formation. L'originalité, c'est le seul en France, et d'être entièrement en ligne pour répondre justement aux besoins des personnes qui sont déjà en activité, qui ne peuvent pas se rendre disponibles, se déplacer, etc. Donc d'être sur une formation dans laquelle le numérique vient combler un manque, en tout cas une impossibilité d'accéder à une formation. Et puis on a un temps de regroupement qui s'appelle l'Académie d'été, effectivement, qui, comme son nom l'indique, a lieu en fin d'année universitaire, sur une partie un peu interne à la formation, hein, en quelque sorte, et puis une partie journée publique sur une question de société, une question d'actualité. L'année dernière, c'était sur les femmes et les hommes dans l'espace public. L'année d'avant, on avait le travail des femmes en temps de crise. L'année encore d'avant, on avait les politiques d'égalité de la maternelle à l'université. Donc on est à chaque fois sur une question transversale, qui n'est pas rattachée à une discipline, mais qui a émergé dans le débat public et qui pose question. On a une reconnaissance aussi, donc on a des gens qui sont financés par leur employeur, d'autres qui viennent par une démarche personnelle, mais on a aussi obtenu depuis 2 ans une reconnaissance de la région Bretagne qui permet une prise en charge de la formation pour les demandeurs d'emploi de la région Bretagne. On a des stagiaires qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de mettre des actions en place. Ça peut être, par exemple, une travailleuse sociale qui s'occupe de l'accueil des femmes victimes de violences dans un hôpital, par exemple, et qui dit, voilà, j'aimerais mettre des choses en place, mais je ne sais pas très bien comment faire. J'ai ma formation, mes bases, mon cadrage de travailleuse sociale, mais spécifiquement sur la question des violences faites aux femmes, j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de comprendre les mécanismes, j'ai besoin de comprendre les dispositifs qui existent, donc j'ai besoin de me former davantage, d'acquérir une expertise pour ensuite mettre en place un protocole d'accompagnement, d'accueil qui soit plus pertinent, qui soit plus efficace. Donc prendre le temps de se former, prendre le temps de réfléchir, c'est en quelque sorte miser sur l'avenir pour faire mieux. C'est-à-dire prendre le temps à un moment pendant une année universitaire pour ensuite pouvoir accélérer dans un certain nombre de dossiers et mettre en place des choses concrètes pour agir. On ne reste pas juste sur de la connaissance théorique. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment une possibilité d'appropriation du savoir qui se traduise de manière concrète dans les pratiques. On a des gens qui vont monter des activités spécifiques de conseil en égalité professionnelle, par exemple, ou égalité entre les femmes et les hommes. On a des enseignants qui ont envie de mener des politiques parce qu'ils constatent qu'il y a des inégalités filles-garçons dans leur établissement, d'une manière générale, dans l'orientation, et qui ont envie peut-être de proposer des projets en direction de leurs élèves sur le temps scolaire ou un petit peu à côté pour qu'il y ait plus de mixité, plus d'égalité. Ça peut être, comme dans le cas de Colline Briquet, effectivement, de mener une étude pour rendre visible un phénomène, là en l'occurrence les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'ingénieurs, pour sortir du déni. Et donc à partir de ce moment-là, parce que la première étape c'est de faire une espèce de photographie de la situation, hein, avec des chiffres à l'appui, parce que le chiffre ça fait preuve, hein, comme disait Geneviève Fraisse. Donc avoir des éléments pour dessiner le cadre, le paysage, et à partir de là, essayer de comprendre et d'élaborer des modalités d'action. Ça peut être de la sensibilisation des associations étudiantes, par exemple, sur les activités festives qui se passent en dehors des cours, mais qui se passent parfois sur le campus. Donc, il y a une responsabilité aussi de la part des établissements d'enseignement supérieur. Ça peut être qu'on a des stagiaires qui, par exemple, travaillent au planning familial et qui vont se poser la question de la prise en charge de la santé des minorités sexuelles, des personnes bi, lesbiennes, homo, trans. Enfin, donc, il y a toute une série de champs des possibles qui est ouvert. Il n'y a pas une manière d'agir. On ne propose pas quelque chose de clé en main. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'approprier des connaissances dans un espace universitaire pour ensuite agir à une forme de dans le sens d'une transformation sociale réelle. Donc,
dans un contexte comme aujourd'hui où voilà, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, les droits des femmes, les violences sexistes et sexuelles sont au cœur des débats, on en parle un peu partout. Donc justement, dans un contexte comme celui-là où la parole se libère et en même temps où tout et n'importe quoi se dit, c'est d'autant plus important que les gens puissent comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui.
On a effectivement une attention médiatique accrue sur cette forme de manifestation des inégalités entre les sexes et des rapports de domination des hommes sur les femmes. Je dirais que nous, ce que les stagiaires viennent chercher, justement, c'est de pouvoir faire un pas de côté avec une logique hyper présente, que ce soit l'actualité, leur rythme de travail, etc. Mais faire un pas de côté, prendre un petit peu de recul pour dépassionner, prendre le temps de poser les cadres, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de comprendre. Et ça, c'est l'espace universitaire qui le permet, parce qu'on n'est pas dans les médias, on n'est pas dans la réaction militante, etc. On est sur un temps dédié au savoir, à la connaissance. On accueille toutes les candidatures. On va lancer prochainement la campagne de recrutement pour la prochaine promotion. D'ailleurs, je dis que chaque promotion a une marraine.
Oui.
Et cette année, la marraine de la promotion, elle s'appelle Mélissa Plaza. Elle est docteur en STAPS et c'est une ancienne footballeuse professionnelle.
D'accord.
Et donc, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années. Elle a la faveur de son parcours d'être sportive de haut niveau dans un secteur dans lequel les filles sont extrêmement sous-représentées, donc le football. Pour nous, c'était une figure positive qui méritait d'être mise en avant et d'honorer donc notre promotion de stagiaire cette année. Voilà, moi je suis très contente de voir que là, Colline Briquet, qui était donc une de nos stagiaires, a pu transformer ce qu'elle a fait dans le cadre de son diplôme pour à la fois évoluer professionnellement, mais aussi diffuser ce qu'elle a, à la faveur de cette conférence publique, diffuser son travail. Je sais qu'elle a un article en préparation aussi pour une revue de sciences de l'éducation. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire sortir le savoir qui est produit par les stagiaires.
Intéressons-nous maintenant au travail de l'une des stagiaires de cette formation, Colline Briquet, sur la situation des filles en école d'ingé.
À la base, je travaille dans des grandes écoles, grandes écoles d'ingénieurs et ensuite dans des écoles aussi de commerce. Et je cherchais une formation pour enrichir aussi ma compréhension des enjeux universitaires, ma compréhension de la manière dont je fais aussi mon poste. Donc j'ai travaillé 6 ans en école d'ingénieurs. Et quelque chose qui m'a marqué dès le début, c'est effectivement la sous-représentation numérique des filles en école d'ingénieurs. Et très vite, je me suis posé la question, comment les filles vivent-elles leur scolarité ? J'avais eu l'occasion de discuter avec des élèves et certaines me disaient qu'elles s'épanouissaient beaucoup en école d'ingénieurs, qu'elles étaient très heureuses, ça correspondait exactement à ce qu'elles attendaient. Et puis d'autres élèves qui me disaient qu'elles étaient déçues, il y avait parfois même des situations plutôt de mal-être ou de détresse. Donc vraiment des témoignages un peu aux antipodes les uns des autres. Et donc j'avais envie de faire une enquête sur les conditions d'études des filles en école d'ingénieur. Mais pour faire cette enquête, j'avais besoin d'outils méthodologiques. Je voulais vraiment un cadre de recherche pour pouvoir être accompagnée par des professeurs sur ces thématiques, notamment les études de genre, la psychologie, la sociologie. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette formation proposée par l'Université de Rennes 2 et l'Université de Bretagne Occidentale, donc études sur le genre, qui est une formation à distance et qui offre des modules et aussi la possibilité de faire un mémoire. Et donc mon mémoire de recherche, c'était sur les conditions d'études des filles en école d'ingénieur. C'était d'abord, je savais que je voulais travailler sur cette thématique-là. Je m'étais renseignée, d'abord, dans un premier temps, je me demandais voilà, qu'est-ce qui a été réalisé sur cette thématique, s'il y avait des études. Alors c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup, depuis 20 ans, il y a beaucoup d'études sur pourquoi est-ce qu'il y a si peu de filles qui vont suivre des formations en sciences ou en technologie. Donc on s'interroge beaucoup sur les mécanismes socioculturels et psychologiques de l'orientation et qui mènent ensuite à cette ségrégation sexuée des trajectoires scolaires et professionnelles. On va aussi s'interroger sur l'impact de cette faible représentation sur le choix ensuite final pour ces filles de continuer à exercer un métier scientifique ou technologique. Mais on se pose très peu la question de quels sont les rapports sociaux de sexe au sein des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire comment les élèves, quelles sont les relations entre les élèves et notamment le lien entre mixité et bien-être, mixité et conditions d'études. Est-ce que s'il y a beaucoup de filles ou très peu de filles, quel impact ça peut avoir aussi sur l'ambiance entre élèves, sur la manière dont les élèves vivent aussi leur scolarité. Donc je me posais beaucoup de questions et je ne trouvais pas les réponses. Donc je me suis dit, le meilleur moyen d'avoir ces réponses, c'est de lancer une enquête. Et donc dans un premier temps, je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle Femmes Ingénieurs, qui m'a aidée aussi à développer cette enquête, donc qui s'est fait sous forme d'un sondage en ligne au printemps 2016. Mais je ne voulais pas le faire de manière... le faire en amateur, on va dire. Je sentais bien qu'il me manquait certaines lacunes en matière méthodologique. Et donc c'est vrai que la formation permettait d'avoir des clés de lecture sur les études sur le genre. Et comme je disais, en psychologie, en sociologie, pour ne pas surinterpréter. Et puis il y avait aussi le fait que je travaillais moi-même en école d'ingénieur. Donc forcément, j'avais un risque d'être subjectif, d'y mettre mon propre vécu. Donc pour avoir un maximum de recul, pour avoir aussi... pour gérer le sondage et analyser finalement ce qui ressortait du sondage de la manière la plus objective possible et avec des auteurs, avec vraiment un cadre méthodologique plus rigoureux. C'est un sujet, l'égalité femmes-hommes est un sujet qui m'intéresse énormément. Pour moi, c'est vrai que cette démarche, je la voyais aussi comme un moyen de mettre un peu plus d'éclairage sur ce sujet. Je trouve que globalement, on en parle peu. Dans les médias, on va beaucoup parler, par exemple, du harcèlement sexuel de rue. On va parler beaucoup de la violence qu'il peut y avoir dans certains quartiers, qu'on va identifier, étiqueter, etc. Mais finalement, dans les grandes écoles de la République, on parle un petit peu moins de ces questions-là. Je pense qu'il y a un tabou, notamment sur les agressions sexuelles. De manière globale, on est dans une société où il y a ce tabou sur les agressions sexuelles et je trouve qu'il est important de libérer la parole. Et à travers le sondage, donc, il y avait un certain nombre, il y avait une centaine de questions et il y avait surtout une partie du sondage qui était un commentaire libre et chaque élève pouvait vraiment indiquer ce qu'il souhaitait et ça, je pense que ça a quand même aidé un peu à libérer cette parole-là. Et la conférence du coup d'aujourd'hui, c'est aussi pour mettre en lumière ces résultats et de permettre aux écoles d'avoir aussi ces outils de compréhension, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui veulent améliorer la situation, mais qui découvrent aussi la manière aussi dont se passe la vie associative. Ce qui ressortait du sondage, c'était vraiment ça. C'était il y a a priori peu de sexisme qui vient des professeurs ou qui viendrait du cadre de l'école, mais plutôt un sexisme entre élèves dans le cadre du milieu associatif et étudiant. Et je pense que ce n'est pas forcément évident pour toutes les écoles de savoir comment l'aborder. Et donc ce mémoire avait pour objectif de rentrer plus en détail sur concrètement comment les élèves vivent aussi leur vie associative et pour ensuite, par la suite, imaginer des pistes d'amélioration ou de dialogue aussi avec les étudiants.
Dans votre enquête, on peut se rendre compte, comme vous venez de le dire, d'une forme de tabou, de banalisation de certaines violences sexistes ou sexuelles. Comment on peut déterminer un petit peu l'origine de cette forme de banalisation ?
Alors, ce qui ressort effectivement du sondage, c'est que, en gros, 60%, à peu près 60% des filles disent avoir été victimes ou témoins de sexisme, donc de violences verbales sexistes ou sexuelles. Et en termes d'agression sexuelle, on a hauteur de 10% qui disent avoir été victimes ou témoins de ces agressions physiques sexistes ou sexuelles. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants, qu'il faut prendre en compte. Comme je disais, il y a peu d'études qui ont été faites sur le milieu véritablement étudiant ou les écoles d'ingénieurs, de comprendre pourquoi ce sexisme s'est développé, etc. Mais si on regarde les études qui ont été réalisées dans le monde du travail, sur des milieux qui étaient traditionnellement masculins, il y a un certain nombre de clés de lecture qui ont été développées, et notamment une première piste, c'est de s'interroger sur... les effectifs. C'est-à-dire que plusieurs études ont montré qu'il faut atteindre en fait un seuil minimal de représentation des filles pour justement pouvoir lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Et ce qui ressort du sondage, c'est qu'effectivement, plus le pourcentage de filles est élevé et moins il y a de risque d'avoir justement ces violences sexistes et sexuelles.
Vous parliez des commentaires libres tout à l'heure dans votre enquête. On voit qu'il y a certaines filles qui présentent une forme d'énervement un petit peu face à ce questionnaire qui les plaçait en tant que victimes. Est-ce que cette forme d'énervement, elle n'est pas révélatrice finalement d'une volonté des femmes de ne pas être dans cette place de victime justement ?
Alors je pense qu'effectivement une partie des élèves ne souhaite pas avoir cette étiquette de victime. Je pense que ce qui ressort surtout, c'est que beaucoup d'élèves ne veulent pas être différenciés, ne veulent pas qu'on leur dise « vous n'êtes pas comme les autres élèves, vous n'avez pas exactement la même place ». C'est vrai que face à ce sexisme, on voit que la plupart des élèves vont opter pour des stratégies plutôt d'évitement ou de déni ou de féminisation, et il y a très peu d'élèves qui vont aller vraiment en confrontation ou en résistance par rapport à cette situation. Je pense qu'une des raisons qui peut l'expliquer, c'est déjà la première, c'est que les élèves ont, et on les comprend, ont terriblement envie d'être intégrés, d'être acceptés. C'est plusieurs années au sein d'une promo, au sein d'une école. Si chaque élève commence à se dire, voilà, dès que j'ai une remarque sexiste ou une remarque à connotation sexuelle, si je réagis à ce moment-là ou si je le prends personnellement, si je le vois comme une agression, on ne peut pas vivre sereinement sa scolarité. Donc une première stratégie peut être de dire, je vais faire comme si c'était de l'ordre de l'acceptable, que ce n'est que de l'humour, ça ne me vise pas personnellement, parce que sinon, on peut vivre super mal sa scolarité. Après, je pense qu'il y a aussi, on le voit, les femmes vont intérioriser aussi un certain nombre de normes en matière de sexualité, en matière de rôle à jouer par rapport à la société, et donc vont minimiser plus naturellement ce sexisme. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de ne pas d'y voir vraiment avant tout de l'humour. C'est-à-dire que la plupart des élèves, c'est ce qui ressortait des témoignages, les élèves vont dire « ce n'est que de l'humour, c'est du second degré, si on le prend à la lettre, ça veut dire qu'on n'a pas d'humour, donc on n'est pas fait pour venir en école d'ingénieur ». Alors que ce qui ressort en même temps du sondage sur certains aspects, c'est que je n'ai aucun doute que pour un certain nombre d'élèves garçons, il y a l'effet de groupe qui joue, c'est-à-dire que un élève va faire une blague sexiste et on va en rire, on va l'alimenter, mais on ne veut pas à mal, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une minorité qui le fait, et c'est pour ça que je citais tout à l'heure des études qui ont été faites sur le monde du travail. Imposer une sursexualisation d'un lieu de travail, y mettre des blagues sexistes, de la pornographie, isoler finalement et cadrer finalement le groupe féminin comme ça, on peut y voir un rapport de domination, un rapport de contrôle par rapport à cette situation-là.
Au-delà de la situation des élèves, du côté de l'administration, est-ce qu'il y a un manque de responsabilisation ?
Alors, c'est vrai que le ministère de l'Enseignement supérieur a essayé de développer un certain nombre de recommandations, notamment en décembre 2016, il y avait une lettre adressée aux directeurs des établissements pour recommander la mise en place d'un dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment de lutte contre le harcèlement sexuel. Si vous allez sur le site du ministère, actuellement, vous avez une carte qui vous montre le nombre d'établissements qui ont mis en place ces dispositifs et ont commencé à le faire. Actuellement, on a une vingtaine d'établissements, donc tout établissement confondu, qui ont commencé à mettre en place ce type de structure. Dans les écoles d'ingénieurs, il y en a actuellement moins de 10 sur 200 écoles d'ingénieurs existantes, donc c'est largement insuffisant. Donc il y a vraiment besoin de développer des campagnes de prévention et de sensibilisation, de développer aussi des cellules d'accompagnement pour les victimes.
Comment est-ce que vous expliquez le fait aussi, j'ai vu dans le mémoire, que les filles ne soient pas demandeuses de plus de mixité, et en tout cas le soient moins que les garçons ?
L'idée, je pense que beaucoup d'élèves se disent « j'ai travaillé dur, j'ai passé mon concours, j'ai ma place en école d'ingénieur ». Voilà, c'est le système français méritocratique, égalitaire. Il n'y a pas plus de filles parce qu'elles ne sont pas intéressées par les sciences et par l'ingénierie. Donc il faut faire un petit peu plus de pub et de promotion sur ces études. Mais en gros, la situation est ce qu'elle est. Et il y a, j'ai l'impression, cette idée que si on essaie d'encourager plus l'égalité femmes-hommes, de faire plus de promotion, voire éventuellement des actions discrimination positive, etc., c'est vu comme une profonde injustice. Quoi ? On va remettre en cause ma place. Si on met en place toutes ces actions, si on essaie de pousser trop fortement à plus de mixité, on risque de me dire « Ah oui, mais toi, tu es en école d'ingénieur parce que tu es une fille et parce qu'il y a des actions qui font qu'on a poussé à plus de filles. » Donc c'est vu comme quelque chose de profondément injuste et contradictoire avec ce système méritocratique de « j'ai passé un concours, je mérite ma place en école ». S'il y a plus de filles qui veulent venir, elles ont qu'à passer le concours et faire comme moi. Je pense qu'il y a un peu, aussi cette idée-là. Et effectivement, dans les témoignages qui ressortaient du sondage, un certain nombre d'élèves filles disaient « Mais arrêtez avec ces questionnaires sur l'égalité femmes-hommes, arrêtez de nous demander tout ça, on est des élèves comme les autres. Plus vous allez mettre un coup d'éclairage sur les filles en école d'ingénieurs, plus on va nous considérer comme pas à notre place. » Et ça, c'est extrêmement désagréable comme sensation.
Par rapport à la mixité, le peu de mixité des écoles d'ingé, finalement, quel est le lien du coup entre ce peu de mixité et le bien-être des filles dans les écoles ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les élèves sur « Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre mixité et bien-être ? Pensez-vous que s'il y avait plus de mixité, il y aurait une meilleure ambiance dans la promotion ? Ou même au sein des professeurs, est-ce que la relation serait plus agréable ?» Vous avez 75% des garçons qui répondent « oui » et qui sont plutôt dans l'ensemble favorables à plus de mixité. Et en revanche, quand vous interrogez les filles, là, à la question, donc, est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de mixité, il y aurait une meilleure ambiance au sein de la promotion, vous n'avez que 45% des filles qui disent oui. Donc il y a effectivement, c'était assez inattendu quand c'est ressorti du sondage, il y avait plutôt cette idée qu'il n'y aurait pas de lien. Quand on regarde vraiment en termes d'indicateurs de santé, de bien-être, parce que les élèves ont vraiment été interrogés sur de nombreux aspects de leur vie, en école et sur le campus, et on voit qu'il y a clairement un lien. C'est-à-dire que dans les établissements notamment où il y a moins de 10% de filles, on va retrouver des indicateurs de santé plus alarmants, on va avoir un niveau de bien-être, c'est-à-dire on leur demande s'ils se sentent souvent ou rarement donc heureux, épanouis, intégrés, etc. Donc il y avait différents indicateurs comme ça, et clairement il y a un lien entre niveau de mixité et bien-être. Mais il est vrai qu'il ne suffit pas d'augmenter le nombre de filles pour avoir tout de suite une explosion du bien-être ou pour que ça se passe mieux. Il faut véritablement, c'est pour ça que je parlais de campagne de sensibilisation et de prévention, parce qu'il faut pouvoir accompagner aussi ce changement. Et certains garçons d'ailleurs le disent dans le sondage. Je me souviens notamment d'un élève qui a dit « Le machisme est une réaction logique au changement. » C'est-à-dire qu'il y a ce changement brutal, l'école se transforme et il y a cette réaction avec des propos et des comportements plus sexistes. Et donc je pense que les écoles qui augmentent très rapidement le nombre de filles présentes dans l'établissement mais qui n'accompagnent pas ce changement, qui n'aident pas aussi les élèves à comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a beaucoup plus de filles, il y a ce risque qu'il y a au contraire finalement une remontée du sexisme alors que paradoxalement il y a plus de filles. Et surtout, c'est que quand un établissement met en place des actions en faveur égalité femmes-hommes ou pour justement plus de mixité, et il y a des établissements qui mettent en place des mesures, il est très important d'associer les élèves, de communiquer avec eux, d'expliquer pourquoi ces mesures sont mises en place, quel est leur sens. Je pense qu'il y a aussi certains établissements qui commencent à introduire aussi des cours qui vont aborder aussi la question du genre pour justement que les élèves comprennent aussi l'enjeu. Je pense que beaucoup d'élèves, quand vous leur parlez de sexisme, ils disent mais non, c'est de l'humour sexiste, c'est pas un sujet sérieux, c'est pas dramatique, qu'est-ce que vous venez nous embêter à en faire quelque chose justement de dramatique ?
Justement, il y a un manque de sensibilisation face à ces formes de violence. C'est une constatation qu'on peut faire donc, dans les écoles d'ingé, mais qu'on peut faire de manière générale dans la société. Vous parliez d'un besoin de sensibilisation. À quel stade il faudrait faire justement cette sensibilisation à ces violences ?
Moi, je pense déjà qu'il y a une première action qui est essentielle, c'est de former et de mobiliser les acteurs principaux du tissu associatif, c'est-à-dire les présidents et présidentes des BDE, des grosses associations, notamment les associations qui font des soirées, qui font des week-ends d'intégration, qui font des événements, de bien leur faire comprendre qu'ils sont responsables de l'événement pour des raisons de sécurité, notamment on va leur parler beaucoup plus souvent maintenant des risques liés à l'alcool. Mais je pense qu'au-delà de ces questions-là, il faut aussi aborder la question des violences sexuelles. Pour moi, ils doivent être les ambassadeurs, les porte-parole sur ces thématiques-là. Et après, finalement, influer et diffuser au sein du tissu associatif. Donc pour moi, il y a vraiment cette première action qui est importante. Et après, je pense qu'en première année à l'université, en première année en école d'ingénieur, en première année en tous les établissements, il doit y avoir de la sensibilisation qui est faite à ce moment-là. Au moment de la rentrée, donc avant les week-ends d'intégration, avant les grosses soirées étudiantes, pour vraiment mettre en place cette idée de tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles. On voit des campagnes qui ont été développées. Alors, il y a quelques universités en France qui l'ont faite. Vous avez aussi, je pense notamment au Royaume-Uni, où certaines universités, dès la rentrée, il y a une semaine qui est thématique, où il y a des films, il y a des débats. On va vraiment libérer la parole. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce dialogue, cet échange avec les élèves. Il peut y avoir aussi des affiches, il peut y avoir un site web dédié. Les actions en la matière peuvent être très larges, mais vraiment importantes d'ouvrir le dialogue, de pas juste organiser non plus un amphi, où on met les élèves et puis on leur dit voilà un peu la bonne parole et maintenant à appliquer. Mais c'est vraiment de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention aussi tout au long de l'année derrière.
En parlant de libération de la parole, pendant la semaine régionale de lutte contre les violences faites aux femmes, on avait reçu à Silab des étudiantes en école d'ingé qui étaient investies dans une asso féministe et elles disaient notamment que la parole des filles au sein de leur école commençait à se libérer. Est-ce que vous l'avez observé aussi, cette libération de la parole ?
Il y a une grande diversité de situations entre les établissements. Je pense qu'il y a clairement des établissements, des écoles d'ingénieurs qui ont mis en place des dispositifs qui essaient d'être plus à l'écoute de leurs élèves, qui leur permettent d'avoir aussi plus de plateformes pour pouvoir s'exprimer, et je pense que c'est extrêmement positif. Après, ce qui ressortait de l'étude, c'est que malheureusement, il y a encore une majorité d'établissements pour lesquels le sujet est encore tabou, on n'en parle pas. S'il y a des agressions, on va dire que c'est des cas isolés, on va traiter ça sous un angle vraiment de confidence avec l'élève et vraiment ne pas, on va pas en parler de manière générale avec les élèves, alors que c'est extrêmement important de pouvoir libérer cette parole.
Pourquoi justement est-ce que c'est tabou dans les administrations des écoles ? Est-ce que c'est, j'ai vu dans votre mémoire que vous parlez de réputation des écoles à tenir ?
Je pense qu'un phénomène qu'on retrouve au niveau des administrations et qui est déjà présent au niveau des élèves, c'est de se dire, voilà, on n'a pas beaucoup d'élèves filles. Si on commence à dire que dans notre école, il y a des violences sexistes et sexuelles, on aura encore moins de filles. Les journalistes ne vont retenir que ça, ou les parents ne vont retenir que ça. Et c'est vrai que dans l'étude que j'ai réalisée, il y avait toute une première partie qui interrogeait les élèves globalement sur qu'est-ce que vous pensez de la formation ? Est-ce que le contenu vous intéresse ? Est-ce que les ressources pédagogiques sont de haut niveau ? Est-ce que le corps professoral, vous avez une bonne relation avec les professeurs ? Et la réponse, c'est que plus de 80%, même parfois 90% des élèves sont extrêmement satisfaits de leur formation. C'est-à-dire que la formation d'ingénieur est une très belle opportunité pour les filles. Et effectivement, on est encore dans cette phase de vouloir de promouvoir davantage ces études pour qu'il y ait plus de filles qui fassent aussi des études d'ingénierie. Et donc, il y a toujours un peu ce dilemme de se dire, mais tiens, on essaie tant qu'on peut de faire venir des filles. Et puis, il y a toujours ce risque de dire, ah oui, mais si on commence à dire que tel établissement, attention les filles, si vous y allez, voilà ce qui va vous arriver. Il y a toujours cette crainte-là. Après, donc effectivement, il y avait ce ressenti de la part des élèves de se dire, est-ce qu'on en parle peu parce qu'il y a cette réputation d'établissement ? Je pense qu'il y a aussi le fait que certains établissements ne savent peut-être pas par quel angle, finalement, aborder cette question-là. C'est un sujet qui est très sensible avec les élèves, donc comment leur parler de sexualité, comment leur parler de représentation aussi des sexualités ou de la femme, comment leur parler de consentement. C'est vrai que tout ce qui va être thématique d'éducation sexuelle, les écoles, je pense, le renvoient plutôt vers c'est au moment du collège, au moment du lycée, c'est une prérogative du ministère de l'Éducation nationale. Sauf que actuellement, même s'il y a de plus en plus de moyens qui sont accordés à l'éducation sexuelle, on met encore très peu au centre de cette éducation sexuelle la question de l'égalité femmes-hommes. Et donc les élèves qui arrivent effectivement au moment de l'enseignement supérieur, schématiquement, on leur a parlé de préservatifs, on leur a parlé de MST, etc. Mais est-ce qu'on leur a parlé de consentement ? Est-ce qu'on leur a parlé de respect ? Est-ce qu'on leur a parlé d'image de la femme, etc. Et d'ailleurs, on voit les campagnes qui sont développées dans des universités, je pense notamment au Royaume-Uni, vont revenir sur cette idée-là. C'est quoi le consentement ?
Comment on peut expliquer que des filles comme des garçons minimisent certaines agressions, qui vont être considérées comme des agressions, mais vont minimiser sur le ton de la blague en disant que finalement c'est pas si grave, alors que ça peut être considéré comme grave ?
Il y a un élément important dans votre question qui est la question de l'humour. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'arme la plus redoutable. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambiguïté. Et à partir du moment où quelqu'un va rire juste après l'avoir fait, tout de suite, c'est comme si ça protégeait finalement l'agresseur parce que, ah oui, mais ce n'était que de l'humour. Donc, si tu ne ris pas ou si tu le dénonces comme du sexisme, c'est-à-dire que tu n'as pas d'humour. Et à nouveau, on revient à la question d'être intégré au sein de son école, au sein de sa promotion, de se faire des amis. Et ce qui ressortait des témoignages, c'est que certaines disaient, mais oui, moi, ça me gênait quand un camarade passait à côté de moi, me mettait une main aux fesses, ou quand un camarade me disait, pour entrer dans la salle de classe, il va falloir m'embrasser, etc. Et en même temps, si je commençais à remettre en cause finalement toutes ces traditions ou toutes ces manières de fonctionner, je me disais, mais je vais passer pour asociale, donc je vais me retrouver isolée, alors que je viens d'arriver dans l'école, j'ai terriblement envie d'avoir des amis, d'être avec finalement faire partie du groupe. Donc on va le minimiser, on va dire mais c'est pas grave, c'est juste pour rire. Et puis souvent c'est des personnes aussi qu'elles connaissent, donc elles se disent moi je sais bien que c'est quelqu'un de bien, qu'on s'entend bien, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de pensée malhonnête derrière. Donc on va beaucoup le banaliser, et je pense que dans les garçons aussi qui le font, ils le banalisent aussi d'une certaine façon en disant mais à nouveau, ce n'est que de l'humour. Mais on le voit, il y a aussi des études qui ont montré justement l'impact et les conséquences psychologiques justement du sexisme sur la confiance en soi, sur le bien-être, sur la santé. Et d'ailleurs, dans les témoignages, il y avait une vraie différence entre des élèves qui étaient en cours de scolarité et qui disaient non mais c'est que de l'humour, il ne faut pas prendre la mouche comme ça, et des élèves qui en fait, le sondage s'adressait aussi à des élèves qui étaient diplômés alors, depuis moins de 2 ans, et c'est plutôt ces élèves-là qui disaient quand j'y repense maintenant, moi-même je faisais des blagues, moi-même je faisais des clips sexistes, moi-même je faisais des affiches avec des filles en sous-vêtements, et quand j'y repense maintenant, je me dis que j'aurais pas dû, je me dis que j'aurais aimé être sensibilisée à l'époque sur ce que ça représentait, et d'autres qui vont aussi dire à quel point elles se sentaient mal à l'époque, mais elles ne mettaient pas un nom dessus. Elles savaient qu'elles se sentaient mal, et c'est beaucoup plus tard qu'elles ont pu réaliser à quel point c'est pas ce qu'elles souhaitaient.
C'est un mécanisme qui est assez récurrent, on en parlait tout à l'heure, de sortir de cette position de victime un peu. Justement, c'est une question qui fait vraiment débat en ce moment avec la Tribune sur la liberté d'importuner. Est-ce que cette volonté de sortir de la position de victime, c'est finalement révélateur de la domination patriarcale?
Je pense qu'il y a effectivement ce sentiment de on ne veut pas être victime, on veut juste être élève, on veut faire ses études. Le mot féministe est imprononçable parce que tout de suite, c'est voilà, de manière générale, même dans nos sociétés, c'est imprononçable. Donc là, on veut juste être comme tout le monde, on veut pas se démarquer. Et être victime, il y a toujours le problème de se dire déjà, est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on va prendre au sérieux ma parole? On en revient un peu à cette idée de culture de viol de notre société, où on va s'interroger d'abord sur quel était le comportement de la victime. Est-ce qu'elle ne l'a pas un peu cherché? Est-ce qu'elle ne l'a pas provoqué? Comment elle a réagi? Et ce qu'on voit, c'est que les élèves en école d'ingénieur, donc notamment les élèves filles, qui décident de s'opposer à ce sexisme, de réagir à chaque fois que quelque chose est dit ou quelque chose est fait, très vite vont être cataloguées comme hystériques, comme hypersensibles, comme instables, comme asociales, comme la brebis galeuse, etc. Et donc elle a le risque de se retrouver donc isolée de sa promotion. Et je me souviens d'élèves dans le sondage qui parlaient même de suicide social, en disant qu'à choisir entre devenir en fait la victime de cet isolement ou d'être effectivement victime de sexisme, mais faire partie du groupe, faire partie d'associations et bien vivre sa scolarité, le choix était fait.